Vous êtes sur RTL.
On va faire par téléphone, ça va être plus simple. Donc vous nous disiez que vous n'aviez vu en fait l'Otar qu'au moment où elle arrivait sur les côtes.
Oui, parce que c'est une tempête qui avait tous les ingrédients avant sur l'Atlantique, mais on n'avait pas les signes qui nous montraient qu'il y avait quelque chose. Et elle a pris naissance quasiment en arrivant sur les côtes françaises, elle était vraiment explosive. Nos prévisionnistes ont tous été un peu surpris. On a eu des valeurs qui nous arrivaient de droite et de gauche, des stations qui s'arrêtaient parce qu'il y avait des dégâts dans les stations, et on a compris qu'il se passait quelque chose.
Oui.
Et faut être franc, on a été vraiment très surpris par cette tempête.
Et quand vous avez su qu'un deuxième ouragan, Martin, arrivait deux jours plus tard, quelle a été votre réaction ?
Alors, Martin, lui, on l'attendait. On attendait cette tempête, on la voyait venir, on la voyait devenir de plus en plus forte. On savait que ça allait être une tempête très méchante. On avait juste un problème, c'est qu'on avait beaucoup de mal à voir la trajectoire de la tempête. On savait qu'elle allait traverser la France, mais où exactement, on ne savait pas trop. Et on s'attendait vraiment à une tempête très très forte. Et notre gros problème, c'est que quand on a eu l'Otar, on a analysé très vite, on a dit ça, c'est une tempête qui revient une fois tous les 100 ans. Et deux jours avant le lendemain, on avait le Martin qui arrivait, qui était aussi une tempête centenaire. Donc c'était vraiment très difficile à expliquer au public ce qui était en train de se produire et les impacts que ça allait avoir.
Oui. Alors, je le rappelle, hein, Emmanuel Bocry, ces deux tempêtes ont été une catastrophe humaine d'abord. Hein, 92 morts en France, 140 morts en Europe, 3 millions de Français privés de courant, des centaines, des milliers de pylônes électriques à terre, les forêts françaises détruites à environ 10-15%. Est-ce que dans les jours qui avaient suivi la catastrophe, vous vous êtes dit « on a mal fait notre boulot » ?
Alors, ce qu'on s'est dit, d'abord, dans les jours qu'on suivit, on s'est dit qu'est-ce qui s'est passé avec l'Otar, parce qu'on n'avait pas bien compris ce qui s'était passé. On avait les connaissances théoriques, mais pratiques, nos prévisions ne les avaient pas. Martin, non, on la voyait bien venir. Par contre, on avait beaucoup de mal à avoir sa trajectoire. Donc, ces deux tempêtes ont commencé à nous poser beaucoup de questions. On a remis en cause complètement notre façon de faire de la prévision. On a revu dans les mois qu'on suivit. Et dans les deux ou trois années qu'on suivit, tous nos prévisionnistes ont été reformés à technique pour qu'une tempête type Lothar ne puisse pas se reproduire sans qu'on la voie venir.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu, un avant et un après Lothar et Martin. Tout a changé depuis.
Complètement. À Météo France, il y a effectivement avant Lothar et Martin et après Lothar et Martin. À tel point que vous connaissez tous la vigilance météorologique, qui a fait un système d'alerte pour le grand public, la sécurité civile, les autorités, etc. Et même les médias. Et c'est lié à Martin et Lothar. Alors, il n'y a pas que Martin et Lothar. Il y avait eu aussi des inondations dans l'Aude qui avaient fait beaucoup de morts. Et si vous voulez, ça a été une révolution chez nous parce que brutalement, autrefois, à chaque fois qu'on prévoyait un événement météorologique, on envoyait des messages qui allaient vers l'État, qui après prévenaient les médias, et après le public était prévenu. Donc c'était très tardif. Et surtout, je dirais, on parlait un langage qui était très météo, on parlait de vitesse de vent, on parlait très technique. Et là, on a décidé d'avoir un système qui soit parlant pour monsieur tout le monde, pour la sécurité civile, les préfectures, et surtout qu'au moment où on lance l'alerte, ça aille aussi bien, tout le monde soit alerté au même moment.
C'est ça.
Et ça a été vraiment une révolution, et surtout de donner la décision au prévisionniste. Le choix de la couleur de la vigilance, c'est le prévisionniste qui décide, qui dit, alors, quand je dis le prévisionniste, non, c'est une équipe de prévisionnistes. Mais ce sont des prévisionnistes qui décident de passer en orange ou en rouge. Et pour nous, c'est très important parce qu'on sait que quand on passe en vigilance orange ou rouge, on sait que le public sera prévenu tout de suite et que les gens seront au courant.
Alors au début, les alertes, les vigilances ne concernaient que les tempêtes. Après, il y a eu les alertes aux fortes pluies, les inondations, la canicule, bien évidemment, après les 20 000 morts, hein, je rappelle, 20 000 morts en 2003, la canicule, à vigilance grand froid et puis vigilance même désormais pour ce qu'on appelle les vagues submersions. Ça, c'est depuis Xynthia en 2011, c'est ça ?
Tout à fait. C'est à chaque fois qu'on a des nouveaux événements, des choses qu'on n'avait pas rentrées dans la vigilance, mais on sait que ça peut servir à prévenir la population, on l'intègre à l'intérieur du système de vigilance en gardant les mêmes codes couleurs. Et je précise, suite à la vigilance qui est en métropole, cette vigilance elle a été développée aussi dans les DOM-TOM. Dans les DOM-TOM, vous retrouvez les quatre couleurs, vous retrouvez les mêmes types de paramètres, adaptés bien sûr au lieu. Vous imaginez bien que neige, verglas, vous n'en avez pas en Nouvelle-Calédonie, par exemple. Mais, chose très importante, tous les pays européens utilisent un système analogue. Et on se rend compte que maintenant, quasiment tous les pays dans le monde suivent de plus en plus ce système de vigilance météorologique parce qu'il a démontré que ça servait à alerter très très vite les populations.
Alors, Météo France a changé son fonctionnement, mais les Français également ont changé leurs relations à Météo France. Je crois que votre site est l'un des plus consultés aujourd'hui, le site internet. Quand il y a des alertes, ça va jusqu'au-delà de 40-50 millions de visites. C'est énorme.
Alors oui, on a eu même quelques, malheureusement, sur certains événements passés, on a eu des saturations de sites. Alors on a un site de délestage où on parle que de vigilance. On sait que dès qu'il y a une vigilance orange ou rouge, beaucoup de gens vont consulter notre site. On sait, et heureusement que vous êtes là, vous les médias, dès qu'on parle de vigilance orange, on sait que ça va être dans l'information. Et si on parle de rouge, en général, c'est la première information qu'on retrouve dans l'information. Alors, il y a deux médias pour nous qui sont cruciaux. Il y a la télévision et surtout la radio, parce que la radio, ça va très, très vite. Dès que ça passe la vigilance, on sait que quelques minutes après, l'auditeur est au courant. Et aujourd'hui, au début, on avait un peu de mal à faire passer notre information. Les gens ne comprenaient pas très bien ce qu'était l'orange. Mais maintenant, on sait que ça passe très, très bien et que c'est très, très efficace.
Oui. Monsieur Bocry, personne ne conteste évidemment l'utilité des alertes, mais on entend parfois certains Français dire qu'il y en a trop des alertes, que parfois vous les mettez, j'allais dire, pour vous couvrir, entre guillemets.
Alors, le but du jeu n'est pas du tout de se couvrir, et il ne faut pas sous-estimer ou surestimer l'événement. Le but, c'est de donner la meilleure prévision sur un événement météorologique et surtout de prévenir le public qu'il en tienne compte. Alors, on dit qu'on augmente le nombre de vigilances. Alors, en orange, j'ai eu une petite augmentation. C'est du fait qu'on a rajouté la canicule, le grand froid, vague submersion. Donc, forcément, mathématiquement, ça augmente un peu le nombre. Et quand vous prenez, par exemple, la vigilance rouge, on a en moyenne une à deux vigilances rouges par an. Alors, il y a des années où il y en a eu un peu plus, il y a des années où il n'y a pas eu de vigilance rouge. Mais globalement, on ne constate pas, depuis une vingtaine d'années, on ne constate pas une augmentation du nombre de vigilances par rapport au nombre de paramètres qu'il y a dans la vigilance.
Oui. Monsieur Bocry, est-ce que globalement, les prévisions météo aujourd'hui sont fiables à 100%?
Alors, la prévision fiable à 100%, ça n'existera jamais, malheureusement. Par contre, elle s'améliore énormément. On constate des améliorations en continu. Je dirais que si je prenais un exemple des tempêtes de 99, les deux tempêtes qui avaient deux comportements complètement différents, aujourd'hui, on aurait une prévision de l'ordre de 36 heures à l'avance. Donc, la population serait prévenue. Mais attention, prévenir qu'il y a une tempête qui arrive ne veut pas dire qu'on pourra empêcher les dégâts. Les dégâts seront là. Et le but du jeu, c'est de protéger les populations. Et on constate presque tout le temps, mais c'est malheureusement, quelquefois, il y a des morts, mais que le nombre de morts diminue dès qu'il y a une vigilance rouge parce que les gens font attention. Malheureusement, on a quelquefois des morts, on l'a constaté dernièrement.
Merci, monsieur Bocry, d'avoir été en ligne dans RTL ce soir. Vous êtes ingénieur prévisionniste à Météo France, directeur de l'unité Média. Merci beaucoup.